L'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts, parmi ceux-ci des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques, de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société, et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans le contexte d'un cycle de conférences autour de l'éducation populaire que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Mickaël Vertuaroglu, qui est intervenu pour une matinée sur l'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. Mickaël, vous êtes chargé de projet collectif au labo de l'ESS. Je suis Florian Béton et vous écoutez le podcast « Bâtissons des futurs solidaires » de l'Institut Montparnasse. Mickaël, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le labo de l'ESS et votre rôle au sein du labo de l'ESS ?
Donc, je m'appelle Mickaël Vertuaroglu, je suis chargé de projet collectif au sein du labo de l'ESS, qui est donc un think tank de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'on aime bien nous dire, c'est qu'on est un bureau des idées. Un think tank de 7 salariés qui travaillent avec des méthodes ascendantes. Donc l'idée de vraiment partir du terrain et de faire remonter les constats du terrain et les actions du terrain et pour pouvoir les valoriser au niveau national. Moi, au labo de l'ESS, j'ai deux missions qui correspondent un peu à un changement de projet associatif au sein de la structure. On garde toujours cette mission de créer des études d'action, des podcasts, des décryptages, des conférences, mais on essaie d'ajouter une nouvelle facette à notre façon de travailler qui repose sur une nouvelle méthode de prolongement de nos études sur de la mise en place d'actions qui sont préconisées dans nos études. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça autour de l'éducation populaire, vu que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le labo de l'ESS a travaillé sur plusieurs livrables autour de l'éducation populaire. Et l'idée, ça va être aujourd'hui de mettre en place une démarche qui va réunir les acteurs de terrain sur des territoires très divers, qu'ils soient ruraux ou urbains, et les faire travailler ensemble pour comprendre ce qui se passe en termes d'alliance entre l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire et la transition écologique et faire des préconisations pour pouvoir avancer vers la transition écologique juste sur les territoires.
Et bien justement, est-ce que vous pouvez nous présenter les travaux du labo de l'ESS autour de la transition écologique juste ?
Oui, donc il y a eu plusieurs travaux qui ont été menés autour de cette thématique-là, qui est devenue la thématique de référence pour le labo de l'ESS. Donc c'est au travers de ce prisme-là qu'on regarde tous les sujets et on étudie tous les sujets qui vont être lancés par le labo de l'ESS. Alors quand je dis lancés par le labo de l'ESS, c'est... On ne décide pas, nous, entre nous, salariés du labo, les sujets qui vont sortir. C'est vraiment en lien avec l'actualité, en lien avec notre comité de direction et notre comité d'orientation qui va aussi nous faire remonter des sujets chauds du moment qui vont permettre qu'on soit dans le thème et qu'on puisse avoir des préconisations qui ont un sens pour à la fois les structures, les pouvoirs publics. L'idée, c'est quand même de faire... changer l'économie et permettre aux gens d'avoir des armes pour pouvoir aller vers une transition écologique juste. Donc voilà, on va travailler sur des sujets qui auront une résonance avec l'actualité. Donc en 2020, il y a une étude qui a été lancée autour de la transition écologique juste. Une étude pour explorer ce sujet et voir qu'est-ce qu'il y avait autour de ça et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et qui a permis de définir une définition que je vais vous lire, qui est très courte. Donc la transition écologique juste, c'est une transformation radicale et démocratique de notre société visant à assurer tant la soutenabilité écologique de cette dernière qu'une réponse digne et suffisante aux besoins de toutes et tous à l'émancipation de chacun. Donc ça, c'était vraiment le fondement de notre travail autour de la transition écologique juste. Donc c'est une étude qui est sortie, qui a eu des réactions, notamment il y a eu des réactions autour de l'éducation populaire et de certains acteurs de l'éducation populaire. Et donc cette étude a conduit à la réalisation d'une note stratégique. Donc nous, c'est des éléments de travail qui nous permettent vraiment de calibrer un peu des problématiques futures et qui vont définir en fait les démarches qui vont arriver. Et donc cette note stratégique, on l'a coécrit avec IGREN, donc une structure d'éducation populaire, qui en, en, enfin, voilà, en échangeant autour de la transition écologique juste, puisque c'est leur domaine d'activité, on s'est rendu compte ensemble de deux problématiques qui faisaient que la transition écologique juste n'était pas aujourd'hui faisable. Et donc, le principe de cette note stratégique, c'est justement comment on dépasse ces freins et comment on fait pour amener la transition écologique juste. Donc je vais revenir sur les deux freins. Donc le premier frein, c'était que les compétences et les connaissances autour de la transition écologique juste sont inégalement partagées et inégalement valorisées. Typiquement, si je prends un exemple, la récupération alimentaire dans le milieu bobo va être un petit peu... on va montrer que c'est plutôt le geste à faire et qui est intéressant. La récupération alimentaire dans le milieu précaire va être très vite une sorte de honte ou de problème pour la population. Donc on voit bien qu'on ne valorise pas de la même façon deux pratiques qui sont complètement identiques. Et le deuxième frein, c'était que le débat public autour des enjeux écologiques renforce globalement la fracture sociale. Je vais prendre un exemple, enfin même deux. Le premier exemple, c'est autour du débat autour de la voiture électrique. On voit bien que c'est aussi un débat économique. Enfin, il y a plein d'autres arguments qui rentrent dans cette opposition qui vont opposer deux classes de population avec des moyens financiers différents. L'autre exemple, ça peut être tout ce qui est autour des passoires thermiques. Finalement, si on a des moyens financiers, en fait, la passoire thermique n'existe pas puisqu'on peut payer son électricité. Mais si ce n'est pas le cas dans un milieu plus précaire, ça devient un enjeu et ça va une fois de plus diviser la population. Donc... De ces deux freins de cette étude sur la transition écologique juste, il y a des enjeux qui ont été associés à l'éducation populaire qui en sont ressortis. Deux enjeux très importants. Donc, le premier, c'est comment on diffuse les savoirs pour justement régaliser entre toutes les populations et comment on démocratise le débat. Et donc, ces deux enjeux-là nous ont conduit à transformer cette démarche autour de l'éducation populaire et de la transition écologique juste. C'est une démarche qui est en cours aujourd'hui. Auquel on s'est rendu compte que, alors c'est bien, on a associé l'UQPOP avec l'ESS, mais il manque un acteur important, c'est la transition, justement. Donc on a associé la Fabrique des Transitions avec nous sur ce travail-là et un groupe de travail qui réunit aujourd'hui une trentaine d'acteurs autour de ces trois thématiques-là. Et là, l'idée, c'est vraiment, c'est la dernière démarche du labo de l'ESS sur la transition écologique juste, c'est vraiment de créer des alliances entre ces trois acteurs, enfin ces trois types d'acteurs plutôt, d'aller sur des territoires, de créer une dynamique, de la renforcer si elle existe déjà, de potentiellement l'essaimer sur des territoires si c'est possible, en tout cas de tirer des pistes d'action et des valeurs d'expérimentation intéressantes qu'on pourrait concrétiser par la mise en place d'actions qui pourraient être portées à la fois par YGRN, la Fabrique des Transitions, ou par d'autres acteurs qui pourraient s'en saisir sur le territoire, parce que le but c'est de laisser au territoire leur mission, et c'est eux qui connaissent le territoire, donc c'est eux qui pourront faire vraiment les missions, et à la fois aussi sur une logique plus interterritoriale, de se dire, il y a ces problématiques-là qui sont apparues sur tel territoire, ruraux, urbains, QPV, est-ce qu'on peut en tirer des invariants qui pourraient être étudiés sur d'autres territoires et adaptés évidemment, mais qui permettraient quand même d'avoir une base de travail autour de cette alliance qui permettrait, si tout va bien, et c'est notre objectif, d'arriver à une transition écologique juste.
Merci beaucoup, Mickaël. Alors, vous avez mené toute une série d'auditions autour de l'éducation populaire. Est-ce que je peux te demander pourquoi ?
C'est vraiment lié aux méthodes du labo. On ne présume pas de connaître un terrain avant d'y arriver. Et pour connaître le terrain, on mène des actions où on va... questionner le fonctionnement des structures qui sont sur le terrain. Donc là, sur la transition écologique juste, on a pris assez vite le prisme de l'éducation populaire. Ça revient aussi dans nos nouveaux axes de travail, parce qu'on aimerait travailler sur la démocratie sur le thème de la démocratie en général. Et donc l'éducation populaire était un de ces thèmes. On s'est rendu compte que pour connaître le terrain, on devait interroger des structures et puis comprendre leur fonctionnement, leur démarche. Nous-mêmes, on s'est posé aussi la question de comment on fonctionnait à l'intérieur du labo, et les valeurs de l'éducation populaire ont eu vraiment des rebonds avec nos fonctionnements. On s'est rendu compte que quand on mène une étude, on interroge les structures. Alors, on ne va pas vers le public, parce que notre cible, c'est plutôt les structures de l'éducation sociale et solidaire, mais on n'est pas sur du grand public. Mais on est sur cette logique horizontale où tout le monde a sa parole, a sa voix, et donc comment on travaille ensemble et on sort des préconisations, ou en tout cas des préconisations pour amener cette transition écologique juste.
Et selon vous, comment les acteurs de l'éducation populaire ont réussi à embarquer les populations sur le sujet de la transition écologique ?
Alors c'est une question difficile. Avant de rentrer au labo de l'ESS, j'ai travaillé pendant 6 ans dans des structures d'éducation populaire. Très clairement, il y a une vraie différence entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe au niveau de la communication, même des fédérations ou des structures. C'est des sujets qui sont compliqués, où les publics viennent et vont, vont peut-être faire des choses, mais on n'aura pas toujours les retours. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir un peu comment on entraîne la population là-dessus. Une chose est sûre, c'est que l'éducation populaire, elle a les méthodes pour entraîner la population et pour justement lutter contre ces deux freins dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment du coup une partie, à un moment... Si on veut aller vers la transition écologique juste, il faut savoir ce que c'est. Donc, il faut communiquer, il faut sensibiliser la population. Mais en fait, sensibiliser, ça ne suffit pas. Enfin, les gens vont avoir des idées, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui compte. À un moment, il faut aussi expérimenter. Et je pense que c'est ça vraiment le plus des structures d'éducation populaire, c'est qu'elles vont vraiment venir sur le terrain, déjà avoir une posture, pas de professeur, mais de... se mettre au même niveau que la population, expérimenter avec eux, voir ce qui marche, s'adapter aux spécificités de chacun, parce que voilà, sur un QPV, on sait qu'il va manquer beaucoup d'acteurs socio-économiques qui vont peut-être permettre d'avancer certains sujets. Sur certains territoires ruraux, il manquera peut-être d'autres acteurs. Sur des territoires urbains, il y a peut-être une concentration d'acteurs, mais finalement, ils ne sont pas si accessibles que ça pour toute la population. Et donc, ça crée aussi des clivages. On est vraiment sur cette logique-là de se dire l'acteur de l'éduc-pop se met à la hauteur, expérimente, avance avec la population. Et du coup, tout ce qui va en sortir sera vraiment un nouveau savoir que pourra partager un groupe. Et en plus, souvent, je prends l'exemple des centres sociaux ou des MJC, il y a quand même une logique très... on a créé quelque chose sur un territoire, on peut en sortir un peu des... Alors là, peut-être pas le mot invariant, mais en tout cas, on peut sortir un modèle... qui pourra potentiellement être rediscuté sur d'autres territoires, réaménagé, ou en tout cas être présenté à la population pour recréer une nouvelle logique d'éduc-pop sur un autre territoire. Et je trouve qu'on est vraiment sur ce format-là, micro-territoire, comment on fait, et après, c'est là où la logique d'alliance rentre un peu en compte, comment peut-être les acteurs de l'ESS peuvent permettre à cette logique un peu terrain d'être un peu plus... montrer ou en tout cas valoriser. Donc il faut voir un peu comment travailler tous ensemble. Et je cite du coup Julien Masse de Ygraine, parce que c'est un peu une logique qui est intéressante, c'est de se dire il faut qu'on arrête tous structures de l'ESS en général. On va mettre EducPop, Transition écologique, enfin, toutes les structures qui rentrent dans les statuts en tout cas de l'économie sociale et solidaire, de vouloir toujours tous tout faire. Et peut-être se dire à un moment, il y a des spécialistes d'un domaine, on les laisse travailler, on travaille ensemble. On voit comment on est complémentaires et à ce moment-là, comment on avance tous ensemble. Et une fois de plus, je le redis, mais ça sera un peu ma phrase, c'est on avance vers la transition écologique juste, parce que si elle n'est pas partagée par tout le monde, ça ne sera pas une transition écologique, puisqu'il y aura forcément des gens qui vont rester sur le carreau.
Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple ?
Oui. Donc, quand on a réalisé la note stratégique avec Ygraine, on s'est dit, côté labo, est-ce qu'on peut aller chercher des structures qui, premièrement, ne se revendiquent pas forcément de l'éducation populaire, mais en font. Bon, après, comment on les trouve, c'était une autre problématique, mais là, on s'est appuyé du coup, sur des structures de terrain. On a un réseau assez important, donc on a pu aller trouver des acteurs. Et on a rencontré une structure qui s'appelle ECHO. Donc c'est une association qui travaille autour de la solidarité internationale et le développement durable. Et ils ont deux missions principales. Donc la première, c'est de travailler sur la colocation écologique et solidaire liée avec des personnes exilées. Et la deuxième, c'est de renforcer l'autonomie justement de ces personnes exilées autour de l'appropriation collective de savoir et autour de tout ce qui est low-tech. Donc comment on évite d'utiliser des technologies pour régler tous nos problèmes. Même si les technologies existent, elles sont importantes sur certains points, mais en tout cas, comment on allie tout ça. Et en fait, c'est une asso donc, qui réunit des publics avec des cultures très différentes et qui a réussi à, par l'expérimentation entre le public, hein, parce que du coup, ça peut être des jeunes ou des moins jeunes, c'est très intergénérationnel. Donc, comment ils ont réussi à développer les compétences de chacun par le partage d'expériences sans être sur une logique, personne exilée, je t'apprends notre nouvelle culture, comment on fonctionne, vraiment comment on mélange tout ça et on crée des nouveaux outils, qui fait que les jeunes dans cette, enfin les jeunes et les moins jeunes, c'est mon prisme de mon ancien, ancienne partie du pop, se partagent leurs compétences. Notamment, par exemple, ils ont créé des ateliers de fabrication de vélos. Ils ont aussi créé des ateliers où ils fabriquaient des objets en mixant les cultures. Ils ont aussi un toit, hein, c'est quand même un des principes de l'asso autour de la colocation écologique. Et voilà, ils réparent eux-mêmes. Et en fait, finalement, ils fonctionnent en expérimentant tous, chacun de leur côté, un fonctionnement d'éducation populaire par vraiment la logique de l'apprentissage par les pairs. Voilà, et surtout, un des points qui est important dans cette expérimentation, c'est qu'on reste vraiment sur l'égalité des savoirs aussi. Il n'y avait pas une culture qui apportait quelque chose à une autre culture, c'était vraiment, on mélange tout, et on voit ce qui se passe, et on voit ce qui est utilisable à tel moment, et comment on partage.
Donc à la lumière de ce matin et de cette conférence, quel lien vous faites entre éducation populaire et acteurs de l'ESS
Aujourd'hui, pour nous, côté labo de l'ESS, le plus important sur l'éducation populaire et les acteurs de l'ESS, c'est vraiment de créer cette alliance qui va vraiment permettre de travailler ensemble et de mélanger nos pratiques. Ce matin, on l'a vu par les apports de Sandrine, finalement, l'ESS et l'éducation populaire, ça démarre quand même de valeurs communes. Très clairement, moi, pour avoir travaillé dans deux structures qui se revendiquaient et de l'éducation populaire et de l'ESS, je trouve qu'il y a vraiment ce côté d'aller vers une transition vers un monde plus juste, démocratiquement, économiquement. Il y a vraiment tout ça qui en ressort. Alors après, ça se traduit différemment selon les structures, selon les projets associatifs. On a vu qu'il n'y avait pas vraiment de définition, finalement, côté EducPop. Et la définition de l'ESS, il y a la loi ESS, mais c'est vrai que voilà, il y a... chaque structure apporte son projet et sa façon de voir ce domaine-là. Donc il y a vraiment déjà l'intérêt de réunir ces mondes-là parce qu'ils viennent un peu de la même conviction de base. De se rendre compte que dans l'ESS, on a besoin de mécanismes d'éducation populaire aussi pour être cohérent avec nos propres valeurs. Parce que... nous, par exemple, on le constate en tant que think tank, on est sur une logique de diffusion de savoir, et à un moment, on n'a pas la connaissance de base, on l'a appris par les structures qu'on a rencontrées, par le microcosme avec qui on travaille, qui nous permet justement de faire remonter un peu toutes ces données et qui nous perpétuellement nous re-questionne et nous réinterroge sur nos pratiques. Si je reviens un peu au projet qu'on mène aujourd'hui, donc là on est sur une démarche qui allie ESS, transition écologique et éducation populaire. On a lancé notre démarche, on a réuni un groupe de travail d'une trentaine d'acteurs dans ces trois thématiques-là, et on leur a présenté une méthode qu'on avait imaginée pour justement aller repérer sur le terrain ce qui manque dans cette alliance. Et ce groupe de travail avait pour vocation, de redétricoter tout le travail qu'on avait fait et de pouvoir avancer. Donc il y avait les acteurs d'éducation populaire qui venaient avec leur méthode, leur concept, leur pourquoi vous avez fait comme ça, et voilà, les acteurs de l'ESS qui avaient une autre approche, les acteurs de la transition qui avaient aussi une autre approche. Et du coup, voilà, c'est à chaque fois comment on retravaille, on repart d'une nouvelle méthodologie, on réapprend les uns des autres, on apprend aussi des nouveautés dans chaque domaine, parce que c'est aussi l'avantage de travailler à plusieurs, c'est que il y a plein de choses. Typiquement, on va aller beaucoup animer de temps sur le terrain, parce que c'est notre objectif. Nous, au labo, on a des méthodes, on a été créé en 2010, on a des méthodes qui ont évolué, bien sûr, mais qui sont nos méthodes. Là, en s'associant avec un acteur de l'éducation populaire, on va beaucoup re-questionner comment on anime, comment on travaille ensemble et comment on fait remonter l'info. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. Pareil, côté transition, y a C'est quelque chose qui, nous, est le fil rouge de notre assaut. Le truc, c'est que voilà, on n'est pas des, enfin, on commence à se spécialiser, mais on n'est pas des spécialistes du domaine. Bah, c'est comment on va réussir à apprendre des structures qui vont nous accompagner, et comment nous aussi, on va leur partager ce côté diffusion de savoir, aussi nos méthodes et puis notre réseau, parce que depuis 14 ans maintenant, on valorise l'économie sociale et solidaire, des initiatives sur chaque terrain, des liens avec des collectivités, et puis des missions qui nous ont permis d'influer sur des politiques publiques, soit territoriales, soit parfois nationales, par exemple autour de la culture ou des choses comme ça. Donc c'est aussi comment à la fois on apprend les uns des autres, comment on valorise le travail des uns des autres, et comment à la fin quand même le but c'est que ça profite à chacun de nos publics. Donc ce qu'on disait un peu ce matin, mais l'idée de à un moment ça profite aux gens grâce à l'éducation populaire, ça profite à la société grâce à la transition écologique, ça profite aussi aux acteurs de l'ESS grâce aux labos, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où comment on partage nos réseaux pour toucher le plus de gens possible.
Mickaël Vartoroglu, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Alors, un livre, un film, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Il y a le podcast du Labo de l'économie sociale et solidaire qui touche vraiment plusieurs sujets, mais notamment autour de la transition écologique juste. Il y a aussi les études du Labo de l'économie sociale et solidaire qui vous permettent d'avancer sur plus d'une vingtaine de thématiques reliées à la transition écologique juste, mais parfois des thématiques qui permettent d'explorer un peu des sujets. Et si vous arrivez déjà à lire et écouter tout ça, je pense que c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup Mickaël pour ces perspectives éclairantes sur l'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci de nous avoir rejoints.